Vous écoutez
RMC.
Il est 8h. Très belle journée sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous sommes à deux jours de la finale de Ligue des Champions en football et Paris se prépare. Vous allez voir que 8000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale et que des bars affichent déjà complets. D'autant que ce sera sous la chaleur. Il y aura une réunion sur la canicule cet après-midi à Matignon. Enfin, disent les oppositions. Et jusqu'à 2 millions de Français sont concernés ce matin par cette annonce. Deux médicaments anti-obésité seront désormais remboursés par la Sécurité sociale.
C'est un dispositif de sécurité très conséquent qui sera déployé samedi pour la finale de la Ligue des Champions.
Oui, concrètement, un des plus gros déploiements de sécurité de l'année avec 20 000 policiers et gendarmes déployés partout en France et 8 000 rien qu'à Paris et en banlieue. Alors, c'est pas autant que pour un soir de Nouvel An ou pour un 14 juillet, mais c'est quand même bien plus que les 5 400 de l'année dernière quand la soirée, souvenez-vous, avait dégénéré dans la capitale avec quasiment 500 interpellations. Et alors là, on va avoir samedi la finale à 18h sous la chaleur. Ça promet un monde fou dans les bars et en terrasse. Vous confirmez, Lucas Laubert?
Pour le match, Christian, patron du bistrot Beaubourg, a tout prévu à l'extérieur.
On va mettre une pompe à bière.
Pour la capacité.
On va doubler nos assises.
Et pour faire face à l'affluence.
On prend une personne en plus. Bon, bah, ça a l'air une bonne soirée.
Il s'attend à doubler, voire tripler son chiffre d'affaires sur la soirée. Depuis plusieurs semaines, le téléphone sonne, mais il n'a déjà plus de place.
Bah, c'est déjà réservé.
Tout est déjà réservé là.
Ouais, tout est réservé. Mais ça a été réservé tout de suite.
Une journée lucrative en vue, encore plus avec l'heure précoce du match, se réjouit Jérôme, gérant de bar.
Le fait que ce soit 18h, c'est parfait aussi. Ça permet de remplir l'après-midi, alors que si c'était 21h, ce serait en soirée. Et du coup, on aura double amplitude.
Dans son bar, Agathe a déjà commencé à préparer la terrasse.
On installe une belle télé là. Tout ce qu'il faut pour une bonne soirée, messieurs.
Pas de réservation ici, elle sait déjà qu'elle va faire le plein.
Premier arrivé, premier servi.
L'ambiance va être chaude, mais la météo aussi. Avec de fortes températures, il va donc falloir redoubler de vigilance.
Faut toujours, par contre, avoir l'œil. Les gens, ils sont euphoriques. Il y a l'alcool, il y a la chaleur. C'est la soirée, Donc, il faut faire attention quand même.
Et avec la Coupe du Monde en ligne de mire, elle ne cache pas son enthousiasme. Les affaires s'annoncent radieuses ces prochaines semaines, se réjouit-elle.
La Coupe du Monde qui approche aussi, puisque c'est demain que les Bleus se réuniront à Clairefontaine avant de partir aux États-Unis. Il y a une stat qui ne va pas plaire aux Parisiens ce matin. Pour l'instant, les clubs anglais ont remporté deux des trois Coupes d'Europe. Hier soir, c'est Crystal Palace qui a soulevé la Conference League en battant le Rayo Vallecano 1-0. Et c'est l'attaquant des Bleus, Mateta, qui a marqué le but de la victoire. Alors en attendant, c'est la nuit qui a été épouvantable dans de nombreuses villes, et notamment à Paris, avec une vingtaine de degrés encore cette nuit dans la capitale. On a une pensée ce matin pour les 200 000 élèves de terminale qui se lancent dans les épreuves écrites du bac pro. Il y a un syndicat qui a mesuré quasiment 30 degrés. Voilà la température dans certaines salles d'examen. Il y a toujours 17 départements en vigilance orange, là au moment où on se parle. En plus de Paris, ça s'étend de la Gironde jusqu'à la Manche, où il y a eu les orages cette nuit. On devrait encore battre un des records de température, vient de nous dire Géraldine. Aujourd'hui, hier, c'est à Bordeaux qu'un record vieux de 100 ans est tombé. Il a fait plus de 36 degrés. Alors cet épisode, chacun sait, il a commencé dimanche dernier. Mais c'est cet après-midi seulement, disent les oppositions, que le gouvernement se réunit pour parler de la chaleur, Thomas Becker.
Oui, une réunion trop tardive, estime Marine Tondelier, la patronne des écologistes, effarée, je cite, par le degré d'impréparation du gouvernement. Pour déminer les critiques, Matignon assure que la canicule de cette semaine est gérée directement par le Premier ministre et son directeur de cabinet. Cet après-midi, il s'agit de préparer un plan d'endurance pour l'été, notamment face aux incendies, explique l'entourage de Sébastien Lecornu. Une manière aussi d'enjamber la vague de chaleur qui sévit actuellement. Autre critique contre le gouvernement, celle de Marine Le Pen qui estime qu'il est grand temps d'enclencher un plan climatisation. Réponse ironique d'un conseiller, on est content de savoir que le RN soutient notre plan d'électrification. Gouvernement qui espère multiplier le nombre de pompes à chaleur réversibles chez les Français pour faire baisser la température.
Et alors les Nations Unies disent ce matin que ces températures resteront à des niveaux records ou quasi records jusqu'à la fin des années 2020. C'est dans ce contexte d'ailleurs que nous traversons la plus grave crise de sécurité énergétique que le monde ait jamais connue. Voilà ce que dit ce matin l'Agence internationale de l'énergie, référence à la guerre au Moyen-Orient, où les échanges de tirs repartent crescendo d'ailleurs cette semaine. Les États-Unis ont encore frappé l'Iran cette nuit, qui a répliqué en visant une base américaine. C'est devenu un passage quasiment obligatoire, incontournable pour les candidats à la présidentielle. Il y a Raphaël Glucksmann qui publie un livre là, qui sort en librairie aujourd'hui. RMC l'a lu en avant-première. Il y développe des idées comme une convention citoyenne sur l'immigration. Lui qui cherche, vous savez, à devenir une alternative crédible à gauche et qui se donne 3 mois pour peut-être annoncer sa candidature. Écoutez maintenant ce qui s'est passé, c'était hier soir à Paris.
Bruxelles, Jolet, Bruxelles, Jolet, Bruxelles.
Ce sont des militantes, vous les entendez, du collectif féministe Nous Toutes, qui ont perturbé une représentation du Patrick Bruel hier soir au théâtre Édouard VII dans la capitale, pour dénoncer la présence sur scène du chanteur qui est accusé de violence sexuelle, hein, qu'il conteste par une trentaine de femmes. Ça, c'est une des infos du matin, je vous le disais, les médicaments Wegovy et Mounjaro seront désormais remboursés par la Sécurité sociale pour les 1 à 2 millions de Français atteints d'obésité et possiblement concernés par un traitement avec ces médicaments qui coupent l'appétit et entraînent des pertes de poids spectaculaires. C'est donc publié depuis ce matin au journal officiel, ça va coûter une centaine de millions d'euros chaque année, c'est ce que dit la ministre de la Santé Stéphanie Rist, et cette annonce est un immense soulagement pour eux, Célestin Bougère.
Depuis qu'elle a appris la nouvelle, Amandine est très émue.
J'ai eu comme une vague de soulagement.
Pour cette femme de 44 ans atteinte d'obésité, le remboursement de ce traitement est indispensable. Elle ne peut pas se payer ses injections qui coûtent 300 euros par mois.
Mon état de santé, en fait, c'est tellement dégradé que je ne peux plus travailler. Je suis le profil type de la personne qui est en obésité et qui vit dans la pauvreté.
Elle a déjà pu tester un de ses médicaments, le Wegovy.
Quand j'ai commencé l'étude, j'étais en état de dépression grave. Je ne pouvais plus bouger, je faisais 152 kilos. Ma mobilité était en jeu, vous voyez. J'ai réussi à perdre 20 kilos avec le traitement. Je pouvais mieux bouger, je me sentais mieux mentalement, j'avais une apnée du sommeil qui était moins grave.
Plusieurs dizaines de kilos en moins, de quoi se reconstruire et aussi réduire les autres traitements liés à son obésité.
Il y a déjà une amélioration de la santé et donc moins de frais pour la société. Si on ne veut pas considérer l'humain, la souffrance humaine, eh bien qu'on considère la sécurité sociale. Moi, j'ai des soins, je dois faire de la kiné toutes les semaines, j'ai tout un tas de médicaments à acheter.
Et justement, selon une étude récente, l'obésité coûte à la France 18 milliards d'euros par an.
Il y aura 6 Français sur les cours aujourd'hui au tournoi de tennis de Roland-Garros. C'est la suite du deuxième tour. Ce ne sera pas facile du tout pour Elsa Jacquemot contre la Biélorusse Arina Sabalenka, qui est la numéro 1 mondiale. Et on va revoir la pépite Moïse Kouamé face au Paraguayen Daniel Valiero. Il a que 17 ans, Moïse Kouamé. C'est un peu l'attraction de ce Roland-Garros, hein, Julien Taxis.
Oui, et hier, sur le cours numéro 9, ils étaient nombreux à faire la queue pour assister au match en double de Moïse Kouamé. Le jeune Français intrigué, passionne.
Le petit Kouamé, on ne l'a jamais vu jouer. On a envie de le voir jouer.
Après le premier tour qu'il a fait, on a envie de le voir, et en plus c'est un jeune espoir français.
C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un Français qui réussit comme ça. Voilà, on espère beaucoup d'émotions avec lui pour les 20 prochaines années.
Deuxième plus jeune Français de l'histoire à gagner un match à Roland-Garros, Kouamé impressionne également les autres joueurs. Hugo Humbert l'a affronté cette année à Monte-Carlo.
Non, à 17 ans, c'est impressionnant. Je trouve qu'il a un super potentiel. Il me faisait penser un peu à Gaël. C'est bien pour le tennis français de l'avoir.
Un optimisme partagé par Gaël Monfils, qui voit en Moïse Kouamé un futur grand du tennis.
Il a un potentiel de malade et honnêtement, il a un futur exceptionnel devant lui.
Face à tous ces éloges, le joueur de 17 ans, lui, tente de garder les pieds sur terre.
En un sens, non, je ne me surprends pas, mais on apprend tous les jours sur soi. Une nouvelle étape franchi et le plus important c'est de continuer sur cette lancée.
Preuve que Moïse Kouamé est déjà passé dans une autre dimension, la direction du tournoi lui a réservé un grand cours, le Suzanne Lenglen, pour son deuxième tour aujourd'hui.
Alors plusieurs joueurs se sont plaints de la chaleur hier, il y en a un qui s'est carrément écroulé à la fin de son match. Novak Djokovic a demandé à décaler les matchs en soirée. Eh bien, il n'a pas été écouté. Ça reprendra bien à 11h ce matin et sous 32 degrés. Et vous manquerez rien sur RMC, notre radio digitale 100% terre battue.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Emmanuel, la France veut se réindustrialiser, ça c'est dans le discours.
Oui.
Mais concrètement, elle n'a plus de terrain pour construire des usines.
Alors c'est une situation assez ubuesque. Hein. La France, pays le plus attractif d'Europe. La France qui ne jure que par la réindustrialisation, qui veut accueillir des gigafactories, des data centers, avec son électricité nucléaire bon marché notamment. Eh bien, elle n'a bientôt plus de terrain à proposer pour bâtir ses usines. Plus de 80% des intercommunalités qui exercent la compétence de développement économique avec les régions, eh bien, disent ainsi refuser l'implantation de projets économiques faute d'espace libre. C'était 67% seulement il y a 3 ans, nous indique l'enquête que viennent de publier le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, et la Banque des territoires, sachant en plus que l'équivalent de 17 terrains de football par communauté d'agglomération ont en moyenne été déclassés de leur fonction industrielle depuis 5 ans au profit d'autres usages.
Et pourtant, il y a quand même beaucoup de projets.
Alors, la demande en immobilier de bureau diminue, la demande en immobilier commercial diminue, mais la demande de surface pour l'industrie, pour l'artisanat, pour la logistique progresse. Demande qui bute en plus sur d'autres obstacles, des procédures d'urbanisme et environnemental de plus en plus longues. 6 intercommunalités sur 10 ont du mal à faire accepter les projets industriels pour des raisons environnementales. Donc, le modèle de l'industrie sans usine. Hein, vous vous rappelez Serge Turuc qui avait dit l'avenir, c'est l'entreprise sans usine. Eh ben, ça fascinait au début des années 2000. On voit comment ça s'est terminé en catastrophe pour l'économie française. Donc, ce serait peut-être bien quand même d'éviter de reproduire les mêmes erreurs que dans le passé.
Avec cette question d'une forme de suicide, voilà.
Ah, et de paradoxe, pour le moins.
De notre économie. Les chiffres du jour, comme chaque jour sur RMC.
Alors, le gazole, 2,11 € le litre. On va sans doute bientôt casser la barre des 2,10 € qu'on n'avait pas connue depuis le 20 mars. Depuis le 20 mars, on était au-dessus de 2,10 € le litre, donc plutôt bonne nouvelle. Le samplon 95, 2,05 €, stable à peu près lui aussi depuis le 20 mai, mais sur des niveaux plutôt records, plus que 6 centimes d'écart entre les deux. Hein. Le pétrole, bon voilà, on est retombé en dessous des $100, là on s'installe entre les autour des $95 le baril, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis le gaz, 47 € le mégawattheure, on est stable autour de la moyenne à peu près depuis le début de ce conflit.
Et je poserai la question tout à l'heure à l'un des distributeurs de carburant dans ce pays, Michel-Édouard Leclerc, qui sera mon invité à 8h30.
Interrogez-le sur la différence, par exemple, pourquoi ça évolue aussi différemment entre le gazole et le super.
Je l'interrogerai, c'est promis. Merci Manu.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h11 sur RMC, restez bien avec nous, il y a Arnaud Demange qui arrive pour nous faire rire, il y a le face-à-face, vous l'avez entendu, ce sera Michel-Édouard Leclerc, mon invité, on va rentrer dans les rayons et à la pompe. Et puis juste après, il y aura face à Canteloup, Nicolas Canteloup en direct à 8h50. Merci d'avoir choisi RMC, il est 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche. Et bon,
tous les jours qu'il est là. Et c'est bien plaisant. Il est 8h14.
Salut. Ah, il fait chaud. Il fait chaud, Apolline, Victor, Géraldine, Élise, j'ai chaud. Tout le monde a chaud. Apo, il faut que vous invitiez Maude Bréjon, de toute urgence, la porte-parole du gouvernement, histoire qu'elle brasse de l'air, comme d'habitude, et dans nos locaux.
Le gouvernement est pleinement mobilisé, et nos concitoyens, en conscience,
ça fait du bien. Continue, Maude. Bon courage au pauvre gars de la météo sur BFM TV, parce que nous, on a Géraldine Demory, mais on est sympa avec elle, on la laisse au frais, dans le bureau, dans la clim, alors que sur BFM, c'est des sadiques. Guillaume Fleury, vous êtes en exclusivité sur le toit de la Tour Montparnasse où on a retrouvé des pointes à 54 degrés parce qu'il n'y a pas d'ombre et que c'est du zinc. Alors quel temps fait-il ? Il fait chaud. D'accord, eh bien on refera un point dans une heure pour savoir s'il fait toujours chaud. Restez bien là-haut. Et je peux faire la météo en plateau si vous voulez. Alors la direction me dit dans l'oreillette, non, ce sera moins rigolo. Demain, vous irez étudier peut-être les conditions de travail dans les hauts fourneaux à Florange. Mais il va faire super chaud. Bah vous nous direz, hein, nous on sait pas, c'est vous la météo.
C'est
pour ça qu'on vous
paye. Oh, c'est dur.
Donc il faut prendre soin des personnes âgées même si quand vous appelez un boomer pour lui dire de s'hydrater, il y a quand même 9 chances sur 10 qu'ils vont répondre, non mais nous tu sais ça va hein. Avec ta mère, on est en thalasso à Carnac. Tu sais, c'est remboursé pour nous. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est 2000 balles la nuit quand même. Je te laisse parce que j'ai mon soin évasion revitalisante qui va commencer. C'est 2 heures de massage à l'huile d'argan. Au fait, t'as déclaré tes impôts. Attention, il faut le faire. Le trou de la sécu, il va pas se rembourser tout seul. Moi, j'ai cotisé. À mon époque, je te signale, il n'y avait pas de déficit de la sécu parce qu'on travaillait. Parfois jusqu'à 16 heures par semaine.
Ah oui,
ben oui, tout ça jusqu'à des 54, 55 ans. Et toi alors, comment ça va dans ta chambre sous les toits? T'as pas trop chaud? Pourquoi t'as acheté ça plutôt qu'une maison avec un jardin? Bon, faut pas leur en vouloir. Hein. Ils ont pas les mêmes rêves. Les temps ont changé. Le monde a changé. Voilà.
C'est ça. D'ailleurs, l'Iran empêche toujours les navires américains de traverser le détroit d'Ormuz. Le temps a changé.
C'est toujours bloqué. C'est toujours bloqué.
Voilà.
Quelle histoire là-bas alors, hein, ça n'en finit pas. Il va falloir tenir jusqu'à juin avec des vannes sur le détroit qui est bouché. Ah là là, il va être beau le prochain Avengers. Oh, le monde est en danger. C'est une mission pour Captain America.
Oui.
Mais d'abord, je dois aller chercher mon bouclier tout neuf que j'ai commandé sur Amazon. Toi, vilain barbu, laisse-moi passer. Non. Alors si, je suis Captain America, laisse-moi passer. Non, laisse-moi passer. Moi, je suis Captain Iran et tu ne passes pas. Je vais te détruire. Tu sais qui peut battre Captain America? Oui, Captain Vietnam, Captain Afghanistan, Captain Corée, Captain Groenland, Captain Iran. Oui, bon, bah ça va. Bon, il n'est pas prêt de passer, D'ailleurs, j'ai lu un article épouvantable, Apolline. Affreux.
Qu'est-ce qui se
terrible. Passe Savez-vous, Apolline, qu'une cargaison de coucougnettes est bloquée dans le détroit d'Hormuz? C'est absolument authentique, c'est vrai. Alors c'est quoi les coucougnettes? Oui, eh bien ça, c'est une confiserie, une spécialité de peau. Et c'est un palace de Dubaï qui a commandé 15 palettes de coucougnettes pour les mais offrir non. aux invités. Alors, le PDG de la confiserie, Christian Coucougnette.
Non.
Si,
non.
C'est le fils de Gilbert Coucougnette, le fondateur. Il n'est pas content, il a dit « Un pays étranger nous demande nos coucougnettes sur un plateau et on n'est pas capable de leur donner. » Alors que le Quai d'Orsay fait quand même ça tous les jours.
Oh.
Et... c'est l'occasion d'un petit quiz très rigolo.
Ah.
Cette spécialité culinaire française et rigolote existe-t-elle?
Oh là là.
Attention,
la beauté de nos régions.
Cougnette, pas cougnette. Le fion vendéen.
Oui.
Oui, oui, c'est un flan. Le panifou de Provence, un fromage non. de nos régions.
C'est un
mini. C'est un mini. Le trou du cru, un fromage de nos régions.
Oui,
oui, il,
oui
existe.
Il existe.
Les vieux croutons du Luxembourg.
Non.
Si, ça existe, c'est le Sénat.
Ah oui.
Ça se mange pas, a priori.
Ça se mange pas, mais ça sent un peu. Ça sent un peu le vieux fromage affiné quand même. Les zézettes de Sète.
Oui,
oui, oui, ça existe. Le zizi du Bruel.
Non.
Non. Oh. Les glaviots de Clermont-Ferrand. Alors, c'est comme les huîtres, mais ils ont pas la mer.
Non.
Non, ça n'existe pas. Les nombrils de moine. Alors,
peut-être.
C'est une sorte de macaron et ça existe. Bah voilà. Les tétons de la reine Margot.
Non.
Si, ça existe.
Ah bon,
c'est des chocolats.
Ah oui.
D'accord, j'aime
les tétines du Bourbon des Deux Siciles et des Trois Fromages.
Non,
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 ça,
non, non.
Les croûtes de lépreux du Beaujolais.
Non.
Alors, c'est des tuiles au vin.
Ah bon?
Non, ça n'existe pas.
Non,
je déconne. Mais j'ai quand même déposé quand même le brevet.
Niveau marketing, moi, je ne la vendrai pas comme ça.
Non, mais j'ai déposé le brevet. On va en cuisiner avec Victor Pourchet. On va essayer. On vous en amènera lundi prochain.
Allez, ça, voilà.
Ce week-end.
Apportez-moi ça.
Bon appétit. Bon petit déjeuner.
Merci beaucoup, Arnaud. Arnaud, qu'on retrouve tous les jours en podcast et en tournée partout en France. On va faire un petit tour de France.
Oui,
allez, à Biarritz, à Chambéry, à Gaillac, à Hyères, à Toulouse, au Garric, à Tours et à Morières-les-Avignon. Vous nous rapporterez
des tas de petites spécialités.
Un tour de Gaulle spectacle. RMC, il est 8h19. Il y a Nicolas qui nous appelle de Dunkerque. Bonjour Nicolas.
Bonjour Apolline, bonjour tout le monde.
Nicolas, comment ça va? Vous vouliez réagir à cette guerre des prix? Parce qu'à 7h40, j'avais le représentant de la grande, des grands industriels de Herta, Danone, qui disait qu'en fait, la grande distribution leur faisait négocier vraiment avec un pistolet sur la tempe. Et à 8h30, là, dans 5 minutes, j'aurai Michel-Édouard Leclerc. Vous vouliez réagir à cette guerre des prix, Nicolas?
Oui, c'est qu'il y a quand même un peu un effet révoltant sur ce qu'on a entendu ce matin, puisque en tant que consommateur, nous on est toujours entre le marteau et l'enclume à vérifier les prix, les promos, les DLC, et puis on se fait allumer sur les tarifs. Hein. Donc quand on entend en fait parler de ça, il y a un effet révoltant. On est obligé.
Comment vous faites vos courses, vous, Nicolas?
Alors j'ai ma liste de courses, j'ai ma scanette, je peux dire enseigne.
Ouais. Oui, vous pouvez tout dire.
Je fais mes courses dans un magasin Carrefour.
D'accord.
Et puis, techniquement.
Et quand vous dites avec votre scanette, c'est-à-dire que vous faites, vous vérifiez quoi, chaque promo?
Je vérifie systématiquement chaque prix, oui, puisque on a un problème des fois d'affichage de prix. On n'a pas le bon prix qui est affiché en magasin et quand on passe en caisse, on paye plus cher. On a aussi par moment l'effet promo qui n'est pas le bon. Et c'est vrai que la scanette, pour ça, c'est un outil qui est super. Hein. On peut contrôler son budget en temps
réel.
La
scanette, c'est quoi? C'est l'appli sur votre téléphone ou c'est autre chose?
Alors non, c'est vraiment le scan que je prends quand j'arrive en magasin. Je scanne ma carte de fidélité.
Donc vous le demandez à l'entrée du magasin?
Voilà, c'est ça. Et donc cet équipement, il me permet de vérifier que le prix qui est affiché, c'est bien le prix qu'on me facture. La promo, je la vérifie en temps réel. Et puis on constate des fois que c'est pas ça qu'on.
Et quand vous rentrez dans le magasin, vous avez votre liste, c'est-à-dire que vous prenez pas au hasard, quoi. Vous prenez vraiment en fonction de temps.
Ça c'était avant, je dirais à l'époque de l'abondance, comme notre président disait, hein. On consommait de manière moins intelligente. Aujourd'hui, on est obligé de faire des choix. Les prix se sont envolés surtout, donc on doit prioriser. Avant, on faisait des achats par envie. Aujourd'hui, on fait des achats par besoin, tout simplement.
Donc tout a changé, effectivement. Merci beaucoup, Nicolas. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes sans emploi?
Oui, je cherche un emploi. Ouais.
Dans quel secteur?
Dans la distribution. Si tout va bien, demain matin, j'espère avoir une bonne nouvelle. Donc,
vous avez passé des entretiens?
Oui, demain matin.
Ok. Écoutez, on croise les doigts pour vous, Nicolas. Et tenez-nous au courant. Rappelez-nous la semaine prochaine pour nous dire comment ça s'est passé.
Ça marche. Okay,
merci,
ça
marche, Nicolas. Bonne journée à vous.
Merci.
Il est 8h. Il est 8h22 et on est bien sur RMC et RMC Story. Dans un instant, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est Michel-Édouard Leclerc. On va évidemment revenir exactement sur ce que disait Nicolas à l'instant, sur cette question de la guerre des primes. On va revenir aussi sur le carburant. Ça a à nouveau bombardé cette nuit. Reprise des frappes Iran-États-Unis. Est-ce que ça veut dire que désormais ça va durer? Est-ce qu'il maintient sa prévision d'inflation entre 3 et 4%? Voilà ce qu'il disait pour cet été. Il va remettre à jour son logiciel des prix et ce sera dans un instant à mon micro. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Grégoire Morelli.
Sébastien Lecornu va présider une réunion interministérielle aujourd'hui consacrée à la chaleur. Le chef du gouvernement dit vouloir travailler à un plan d'endurance pour anticiper des événements comme les feux de forêt tout au long de l'été. Un coût d'une centaine de millions d'euros pour la sécurité sociale, estimation donnée par la ministre de la Santé concernant le remboursement des nouveaux traitements anti-obésité qui entrent en vigueur aujourd'hui pour certains patients. Selon une étude récente, l'obésité coûte à la France 18 milliards d'euros par an. Face à la pollution à l'ozone, la circulation différenciée entre en vigueur en Île-de-France à partir de midi et ce jusqu'à samedi soir, annonce de la préfecture de police qui précise que seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité de l'A86. Les limites de vitesse seront-elles abaissées de 20 km/h. L'Iran dit avoir visé une base américaine au Moyen-Orient en représailles à des frappes américaines cette nuit sur le sud de la République islamique alors qu'un cessez-le-feu est toujours en cours entre les deux pays. Et puis Roland Garros, 6 Français seront sur les cours aujourd'hui, dont le jeune Moïse Kouamé qui jouera dès 11h contre le Paraguayen Adolfo Daniel Valero. Des nouveaux records de température attendus aujourd'hui, 17 départements en vigilance orange canicule, de la Bretagne au département de la Manche en descendant jusqu'à la Gironde. Paris et sa petite couronne rejoignent la vigilance orange à partir de midi. Cet après-midi, on attend 26 à Nice, 28 à Bastia, 29 à Brest, 30 à Reims et Strasbourg, 33 degrés attendus à Marseille, Lyon et Grenoble, 34 à Paris, 35 à Rennes et Toulouse. Il fera 36 degrés à Bordeaux, La Rochelle, Nantes ainsi qu'à Montpellier. Prévoir 38 degrés à Perpignan, la maximale.
C'était le rappel des titres de Grégoire Morelli. Dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Michel-Édouard Leclerc. On va parler prix, évidemment, mais aussi pratique de la grande distribution. Tout ce qui se passe en coulisses, c'est pas joli, joli. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour Apolline.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. On va évidemment parler prix du carburant, on va parler prix dans les rayons, on va parler inflation. Mais d'abord le comportement des Français avec cette extrême chaleur précoce. Est-ce que vous le voyez, vous, dans les rayons? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les gens se déplacent pour faire leurs courses? Est-ce qu'ils restent dans la fraîcheur de vos magasins?
Alors, tant qu'on est dans les terres, oui, l'hypermarché, le centre commercial, devient un havre avec sa climatisation, c'est de la fraîcheur. On peut s'asseoir. J'invite d'ailleurs à reconsidérer souvent la visite de l'hypermarché. J'invite mes adhérents à voir qui manque des bancs. C'est important de savoir accueillir, recevoir. Et quand on est au bord de mer, non, c'est l'inverse. On va à la mer le matin, on va à la mer le soir et on va faire les courses dans un
plus
temps plus court.
Ouais, plus voilà, au milieu de la journée.
Pour ne pas trimballer les enfants. Mais c'est un classique, sauf qu'aujourd'hui, c'est un classique très chaud. Quoi.
Clim ou pas clim? Vous avez pas
Si, on a des clims dans les magasins. Et alors, justement, des clims dans le cadre d'un plan de rénovation où on utilise le froid pour faire du chaud et du chaud pour faire de froid. On va être pionnier, on va mettre près de 2,3 milliards d'ici 2035 dans la lutte anti-gaspi pour un plan de sobriété énergétique, chaque magasin, chaque armoire surgelée, chaque frigo, mais aussi pour récupérer ces chaleurs, récupérer les chaleurs du sol avec la géothermie stabiliser la fraîcheur et la chaleur dans les magasins. C'est une vraie révolution pour diminuer les énergies fossiles, pour diminuer le gaz, pour diminuer le fuel et tout ce dont on va se séparer pour reconquérir notre souveraineté.
Le ministre de l'économie, qui était mon invité hier à ce micro, a parlé de vous comme d'un prophète de malheur. Et il a même dit, mais qu'il fasse son métier. Vous aviez évoqué une perspective probable de remontée de l'inflation jusqu'à 3-4% d'ici probablement en juillet ou en août. Il dit à cela... qu'il fasse son métier et qu'il fasse baisser les prix. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je pense que ces mots traduisent le désarroi de décideurs politiques qui n'arrivent pas à décider. J'ai fait une petite collette comme ça. Madame Genevard, qui était très contente de me retrouver, y compris pour le Tour de France, pour défendre le chou-fleur.
La ministre de l'Agriculture.
Oui, elle dit certaines enseignes procèdent à un chantage mortifère. L'escure, je suis un prophète de malheur. C'est assez catho d'ailleurs comme sémantique.
Prophète, ouais. Oui.
Monsieur Papin, mon ministre du Commerce, mon ex-concurrent et néanmoins ami, Leclerc, faux apôtre du pouvoir d'achat. Président de l'ANIA, le lobby de l'agro-industrie, les patrons de la grande distribution menacent l'économie réelle, dont ils seraient sans doute les héros. On dirait du Maurras, on dirait mon grand-père lisant du Maurras. La sénatrice Antoinette Guth et Anne-Catherine Lozier, qui étaient à la tête de cette commission à charge contre la grande distribution, parlent de pratiques prédatrices de la grande distribution.
Alors là, vous mélangez les industriels et les politiques.
Oui, mais en fait, ça veut dire que les élites françaises, je fais pas du lepénisme, les élites françaises dont je fais partie, qui ont fait des études, qui ont le pouvoir, qui savent parler en public, les élites françaises ont de tout temps été anti-commerce. Elles sont agrariennes, elles sont industrialistes, elles n'aiment pas le commerce. Et c'est pour ça que mon père, pendant très longtemps, on l'a appelé l'épicier de Landerneau, ce qui est un gentil petit sobriquet aujourd'hui. À l'époque, c'était un peu comme l'escure. Moi, je fais de l'économie, toi, reste à ta place, reste épicier. Et moi, on me demande de rester épicier, ce que je ne ferai pas.
Alors, vous allez regarder, évidemment, on va regarder dans les détails, mais je trouve que la manière dont vous présentez les choses, pardon, quand vous dites, on dirait du Maurras, mais vous, on dirait du boulanger, oui. Au sens du boulangisme, c'est-à-dire, pardon, au sens aussi d'une forme de populisme, genre, nous, les petits, contre les grands, vous allez pas nous faire pleurer, quand même.
Je ne vais pas vous faire pleurer, parce que nous, on marche...
L'ILEC, dont vous parlez comme d'un lobby, et l'ANIA, c'est-à-dire les représentants de la grande industrie, disent d'ailleurs, ils jouent les Robins des Bois.
Oui, enfin, ils jouent les mauvais prévôts, parce que quand même, on est les moins chers. Personne, mettez qu'on n'est pas le premier, mettez qu'on est le deuxième, mettez qu'on est le troisième. Moi, je crois qu'on est le premier. Mais on est sur le podium de ce qu'il faut faire en France aujourd'hui en période d'inflation. Et donc, vous trouvez pas ça normal qu'on s'en prenne à ceux qui vendent moins cher et pas à ceux qui vendent très cher? On s'en prend pas au luxe, on s'en prend pas à la distribution sélective, on s'en prend à ceux qui vendent moins cher. Et dites-moi, dans l'intérêt de qui? Dites-moi dans l'intérêt de qui? Moi, je passe sur les plateaux de télévision souvent à la suite de commissions parlementaires où on nous dézingue. Il y a une quinzaine de lois en 20 ans qui sont sorties, qui sont anti-distribution. Moi, je veux dire, je m'en fous. Je m'en fous. Je fais un métier dans l'action, je fédère 700 chefs d'entreprise. La lutte contre pour le pouvoir d'achat par les prix bas, c'est nous. C'est nous, c'est Leclerc, c'est Système U, c'est Intermarché, c'est Carrefour qui revient dans la course. Ce sont les hard discounters qui se sont installés en France.
On va regarder,
c'est nous,
Michel,
qui faisons le bouclier contre l'inflation.
Dans le détail des prix et de la construction des prix. Mais je voudrais vraiment qu'on prenne les choses les unes après les autres. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, sur le début là de notre échange, prophète de malheur, il disait ça à propos de l'inflation. Est-ce que ce matin, Michel-Édouard Leclerc, vous maintenez votre prévision? Vous maintenez que en l'état de ce que vous voyez à la fois de la consommation et de la fabrication des prix, pour vous, en juillet, août, on pourra être à 3 ou 4% d'inflation.
Sur la base d'un mois de conflit à Hormuz, les institutions européennes, Eurostat, je ne sais pas si c'est une institution, mais c'est une édition d'économistes qui fait foi, dit que l'inflation en Europe, en fin juin, sera entre 2,5 et 3,5. C'est repris par tous les journaux hier, d'accord? Moi, je dis que si on rajoute encore un mois de percussions sur le prix des carburants, sur le prix des transports, la plasturgie, l'emballage en France, on sera aux alentours de 3 et 4 à la sortie de l'été.
Donc vous maintenez?
est-ce que je suis prophète de malheur? Je ne veux pas l'être. Je me dis que, puisque Monsieur Lescure parle du réel, je suis dans le réel, j'anticipe ce réel, et donc je me mets en mode combat pour que les consommateurs ne se fassent pas avoir.
Est-ce que lui est dans le déni lorsqu'il dit encore à ce micro hier matin, non, l'économie française résiste, elle résiste mieux que nos voisins, et d'ailleurs nous arrivons à contenir l'inflation, là vous donniez les chiffres européens, lui il dit non, mais en France ça va moins pire qu'ailleurs.
En France ça va moins pire qu'ailleurs, parce qu'on dépend quand même moins du pétrole que les pays de l'Europe de l'Est, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas d'inflation si pas l'Europe, si pas la Banque Centrale, non, si les gens d'action se mettent face à cette spéculation, face à cette augmentation. Et moi, ce que je demande, c'est pas simplement que les industriels puissent venir me retrouver en disant « j'ai des hausses à faire passer ». Ça, on nous a fait le coup pendant la guerre en Ukraine, hein, où on a eu des hausses de 25%, 30% sur les pads, le tournesol et tout ça. Donc je dis dès maintenant à tous les industriels, non, l'inflation n'a pas lieu de contaminer le reste de l'économie hors carburant. Par contre, vous avez des problèmes, vous transporteurs, ok. Vous aurez des problèmes, vous agriculteurs, avec les engrais, ok, on prend date. Mais là, aujourd'hui, on prend pas votre inflation. Et donc, quand vous avez le président de la FNSEA, Monsieur Rousseau, qui dit, il faut rouvrir la négociation. Quand vous avez le président de la coopérative agricole française, Monsieur Dominique Chargé, qui dit, depuis un mois, il est urgent d'ouvrir les négociations, on leur dit non. D'abord, dans nos accords, nous aussi, on défend la ferme France. Mais dans les accords qu'on a signés, il y a des clauses d'indexation qui fait que pour le moment, ça peut tenir comme ça. Et j'en témoigne auprès des consommateurs. Nous pouvons résister à cette première vague d'inflation. Il y a une petite inflation, 1%, 2%. Mais pour la grande, on n'ouvre pas les vannes.
On n'ouvre pas les vannes, vous ne rouvrirez pas de manière globale les négociations sur les prix. Cette fameuse commission dont vous parlez, qui effectivement a été une commission sur la grande distribution, commission parlementaire, elle arrive à la conclusion suivante. Quand on achète pour 100 euros de denrées alimentaires, 100 euros d'achat alimentaire, il y a 8 euros qui vont aux agriculteurs, il y a 14 euros qui vont aux industriels, dont vous parliez à l'instant, et il y a 40 euros qui vont à la grande distribution.
Alors ça fait pas le compte, hein, de toute façon.
Parce qu'ils disent qu'une fois qu'on a enlevé les transports, là, 40%,
c'est,
40.
C'est nul. Je veux dire.
Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, ma question, c'est pas que c'est nul ou que c'est pas nul, c'est, est-ce que c'est vrai?
C'est nul parce que c'est non. Enfin, n'importe lequel de mes étudiants à Neoma, à Rouen, à Reims, aurait à rédiger ce rapport, 400 pages, il saurait que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, déjà Alexandre Bompard a expliqué qu'un hypermarché prenait à peu près 26% de marge brute et se retrouvait avec 1% de bénéfice net avant impôt. Voilà, on reconstruit pas par derrière.
Ce chiffre, non, c'est quoi? C'est du mensonge?
Ce sont des confusions entre création de valeur, entre marge brute. Franchement, j'en suis pas à la page 440 et j'ai lu la moitié du rapport. C'est inepte.
Il parle de vous comme de prédateur dans un système mortifère, voilà. Où en réalité vous intimidez vos interlocuteurs, avec qui, lorsque vous négociez, vous menacez de les déréférencer, de ne plus les vendre, et donc ils négocient en quelque sorte le couteau sous la gorge.
Alors vous imaginez ce que ce serait si j'étais pas là, moi le méchant, vous imaginez l'inflation qu'il y aurait? Non, faut pas charrier, on est en Europe. Nous achetons avec des points de comparaison. Leclerc est allié avec Coop Italia, qui a une très belle image en Italie. Intermarché est allié avec la Conad. Oui, c'est complètement français. Les Français n'aiment les industriels français. Je vous dis, les décideurs français n'aiment pas le commerce. Là où les Chinois font d'abord la route de la soie pour vendre, là où les pays anglo-saxons protestants visent beaucoup sur le régime des concessions avant de vendre, là où même autour de la Méditerranée. La fonction commerciale est première tout autour de la Méditerranée. C'est un peuple de commerçants. La civilisation s'échange avec le commerce, l'a dit Brodel, l'ont dit tous les historiens. En France, moi je croyais que c'était une vieille culpabilité catho, quand le commerce était
paradis. Aujourd'hui, les cathos, ils en prennent pour leur grade.
Mais regardez bien. De l'histoire de mon père à celle de Carrefour, à celle de Système U, quoi. C'est rester à votre place. Vous êtes essentiel ou vous n'êtes pas essentiel? Vous êtes essentiel,
vous
restez ouvert.
Vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir bon dos, d'être les boucs émissaires.
de cette crise.
Moi, j'ai fait toute ma vie comme ça. Ça me touche pas. Mais je pense à tous nos salariés. On a 180 000 salariés dans les centres Leclerc. Quand vous voyez qu'on est traité comme ça en haut lieu, c'est vraiment, ça vole pas. Par contre, il y a un bon modèle dont pourraient s'inspirer les ministres. C'est celui qu'a fait le président de la République lundi. Il a réuni toutes les filières
de l'électrique.
Vous voyez, ça allait depuis les producteurs de réacteurs nucléaires, ceux qui font fonctionner les réacteurs nucléaires,
ceux qui fabriquent les pompes à chaleur
et les distributeurs comme nous. Ben voilà, ça a fait corps, on est allé comme un seul homme, comme une seule femme, on est parti avec un plan. Ben voilà, on n'a pas besoin de se taper les uns sur les autres. Ça, c'est faire de la politique. C'est faire une coalition d'intérêts français et on marche ensemble, concurremment, mais ensemble. Et on n'a pas besoin de se tirer des bourres.
Total poursuit son plafonnement. Pardon, je vais vous reposer la question, mais est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce que c'est vraiment un coup de pouce pour les Français?
Pour le moment, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Nous, on serait en vente à perte et ce serait illégal. Donc, allez faire vos courses chez Total pour le plein et revenez faire le reste des courses chez le moins cher.
Ça reste une bonne nouvelle pour les Français.
Oui, ça compense pas les profits énormes qu'il a fait. Et sur le spectaculaire coût d'achat des 70 bateaux dont on a parlé ici, ni le cagnotage qu'il a fait pendant des années en vendant très cher sur le réseau français, mais au moins il se rachète une fonte. Vous voyez, tout ça c'est un peu cato coupable.
Laver la culpabilité.
Je pense que Monsieur Lecornu n'est pas pour rien dans le fait que Total fasse un peu d'opération commerciale.
Sauf que de l'autre côté, quand vous dites Monsieur Lecornu qui a donc voulu culpabiliser peut-être Total, il y a une autre forme de chantage qui est le chantage à la taxe. Mais ça s'est arrêté hier, puisque à ce micro, à nouveau, le ministre de l'économie a dit non seulement il faut plafonner, donc ça Total le fait, mais de l'autre côté, il y aura quand même vraisemblablement une taxation des super profits de peut-être. Total, puisqu'il a dit qu'il ne s'y oppose pas. Est-ce que vous, les autres, il faut effectivement qu'il y ait une plus grande participation pour combler les déficits de l'État? Est-ce qu'il faut surtaxer
les déficits de l'État? À mon avis, ça sert à rien d'en parler avant les élections présidentielles. Il y aura personne pour en parler avant les présidentielles. Donc c'est un gros sujet majeur, la dette française et tout. Mettez ça après 2027, ça tiendra jusque-là. La France n'est pas en faillite. Elle a des beaux points de
La France n'est pas en faillite.
Elle n'est pas en faillite. On fait des records. Il y a plein de trucs qui marchent pas, qu'il va falloir réformer, mais il y a plein de trucs qui marchent. Le tourisme marche, c'est 100 millions de touristes en France. Si la restauration ne marche pas derrière ça, c'est que c'est la restauration, on n'a pas fourni les bons produits. Il y a eu un effet carte postale des Jeux Olympiques, un effet Notre-Dame. Le secteur de l'armement, on est devenu un des plus gros vendeurs d'armes, d'équipements marins, aéronautiques dans le front. Ça marche bien. La pharmacie marche bien. L'Oréal va bien. C'est la première entreprise mondiale. Donc, le truc aujourd'hui, plutôt, c'est de fédérer des Français sur des beaux projets. Il y a une chose pour la Maison France que je voudrais qu'on fasse, c'est que vous voyez, dans le débat qui nous anime avec les sénateurs, on nous demande à nos distributeurs d'afficher l'origine française des produits ou l'origine des produits.
Oui.
Et comme par hasard, on le demande pas aux industriels. Moi, je demande, mais je demande fermement afin d'éviter toute confusion, puisqu'on n'a pas le droit de négocier la matière première agricole, puisque
la loi française. On a bien compris. Il y a trois éléments. Il y a la matière première agricole, il y a l'industriel qui le transforme, c'est la charcuterie, c'est le laitage, c'est tout ce que vous voulez. Et ensuite, il y a vous, les commerçants, les distributeurs. Oui. Les deux premiers, ils se parlent entre eux et vous parlez avec celui du milieu, l'industriel.
Voilà. Donc je demande en fait deux choses. La première, c'est que la loi qui protège le revenu agricole, qui est censée protéger le revenu agricole, elle soit applicable aussi par la restauration, qui est un des plus gros acheteurs de l'agriculture, et par Rungiste, les grossistes, voire même les exportateurs d'agriculture française, parce que quand ils exportent en Allemagne, moi je retrouve les produits moins chers concurremment aux produits français. Donc extension de la loi Egalim à tous les acteurs de la filière agroalimentaire. Et le deuxième sujet, obligation pour les industriels, j'insiste là-dessus, pour qu'ils disent d'où viennent leurs produits.
Transparence.
Parce que moi, aujourd'hui, on me demande de mettre France, UE, Irlande, ou etc. Et ok, je le fais. Je suis pour l'indication d'origine.
Mais qu'ils le fassent aussi.
Parce que pour le moment, moi, je ne sais pas si le lait que j'achète de Nestlé, il a vraiment été acheté
en France. Et quand on me dit qu'il faut pas négocier le lait à Bruxelles parce qu'il y aurait du lait français, jamais le fournisseur ne me dit la part de lait français.
Le lait Nestlé, le lait dans les yaourts, tout ça.
Absolument. Quand vous achetez un sandwich sur l'autoroute là hier soir, tout le monde revient sur l'autoroute, il y a des sandwichs Sodebo, des sandwichs Fleury Michon, etc. Il faut qu'on soit sûr que ce soit du porc français qu'on rémunère plus et non pas du porc espagnol. Ça, c'est vraiment deux choses importantes. Extension de la loi Egalim. Pas que à la distribution.
Vous rendez coup pour coup.
Ouais. Ouais, ouais. Moi, mon philosophe, c'est Teddy Riner. Tu tapes, je tape.
Hein? Michel-Edouard Leclerc, les prix, est-ce qu'ils vont pouvoir baisser ou est-ce qu'ils vont se maintenir? On a presque l'impression d'ailleurs que désormais, il y a un croisement des courbes essence-diesel qui n'ont pas exactement le même comportement, mais qui restent tous les deux désormais très hauts. Est-ce qu'on est sur une sorte de plancher?
J'ai l'impression que... Alors, d'abord, si ça se libérait... Faut vous dire
mais
ça.
Cette nuit, ça a frappé à nouveau.
Ouais, mais hier soir, on discutait avec des professionnels de Leclerc qui travaillent toute la nuit. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on achète notre gasoil dans le golfe du Mexique. Hein. Il faut 20 jours, 25 jours pour le ramener ici. C'est plein de risques sur le dollar, sur le pétrole lui-même, sur le gasoil, sur les taux d'assurance. Donc, nos collaborateurs sont quand même des gens anxieux qui vivent dans la tension. Et hier soir, on était relativement confiants et on se disait, tiens, ça passe plus un certain cap, peut-être qu'on va y arriver à revenir en dessous du 2 euros pour le consommateur et tout. Puis ils se sont tapés dessus
cette nuit,
et là ça repart quoi. Donc je vous dis, tant que ça reste comme ça, je t'aime moi non plus, je te tape mais tu signes, on est dans ce niveau-là. Si ça se répète un peu trop longtemps, l'inflation va passer de tout ce qui est carburant au reste de l'économie, hein, c'est clair, dans les emballages, les couches, et les produits d'entretien. En même temps, on a l'impression qu'ils sont un peu épuisés de ce jeu de guerre et donc qu'ils cherchent une porte de sortie.
Mais pour vous, on ne reviendra pas au prix d'avant ?
On reviendra, je sais pas, il y a 1200 bateaux qui sont pleins de pétrole, qui sont à l'intérieur du golfe de Persique. Le jour où on va libérer ces 1200...
Ça peut, à l'inverse, faire vraiment baisser.
Oui. Alors, vous voyez, je suis pas qu'un prophète de malheur.
Bon, vous le rassurerez de ce point de vue-là. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Michel-Edouard Leclerc, on est bien sur RMC et BFM TV, 8h47. Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup débarque avec toutes ses imitations.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Michel-Edouard Leclerc était mon invité ce matin et il est resté. Rebonjour Michel-Edouard Leclerc.
Rebonjour.
Et Gabriel Attal souhaitait réagir.
Bonjour Pauline de Malherbe.
Oui.
Écoutez, je voulais dire à Michel-Edouard Leclerc que j'étais très attentif à son discours. La preuve, j'avais les yeux grands ouverts, écarquillés même. Parce que ça fait toujours le gars passionné, je suis toujours les yeux écarquillés.
Oui, j'ai remarqué, oui.
Vous savez, Michel-Edouard Leclerc et moi, on a le même combat. Montrer que nos régions ont du talent.
Oui.
Vous savez, j'ai débuté ma campagne présidentielle à Pauline de Malherbe. Dans l'Aveyron.
Oui, j'ai vu, oui.
Cette belle région aux portes de Paris. Où j'ai pu apprécier les spécialités locales, dont le fameux nougat de Montargis.
Ah non, mais j'ai appris, vous vous trompez là, vous vous trompez, c'est pas une spécialité de l'Aveyron ça.
Non, et que c'est. Apolline Malherbe, n'essayez pas de me piéger, je sais très bien qu'il y a aussi du nougat à Montélimar. Mm. Et d'ailleurs, je salue au passage tous nos amis bernais. J'ai un attachement profond à toutes nos belles régions françaises. La Toscane, l'Andalousie, la Bavière.
Non mais ça, c'est pas la France, ça.
Non mais... Bah, c'est fou, ça. Les journalistes parisiens, non mais dès que ça dépasse le péril, vous êtes perdus. Hein. Moi, je tiens à ma France, Apolline de Malherbe, celle des paysages de mon enfance, celle des champs d'oliviers de Dunkerque à Béthune, les parcs à huîtres de Savoie, les calanques d'Orléans à Blois, les marais salants des Vosges jusqu'au Massif Central.
Bon, arrêtez, c'est ridicule quand même de vouloir tout provincialiser là, comme ça. Tout le monde le sait que vous êtes parisien.
Apolline de Malherbe.
Vous avez grandi à Paris.
Apolline de Malherbe.
Je me sens aussi chaud là pour l'enfer.
Oui, je suis aussi chaud que Michel-Edouard Leclerc. Vous m'empêcherez jamais d'aimer cette France des terroirs dont je suis issu.
Oui, oh.
C'est pour ça que j'aime aller dans les magasins de Monsieur Leclerc. Savourer le bon camembert d'Alsace, la saucisse de Bayonne, le cidre de Provence, les coquilles Saint-Jacques de la baie de Courchevel.
Oui.
Bon, je vous laisse parce que j'ai un train pour le sud. Je suis attendu à Saint-Malo pour la feria. J'adore les champs corses.
Merci.
Merci beaucoup Gabriel Attal. Roland Lescure, tiens, vous êtes le ministre de l'économie. C'est un peu tendu là quand même avec Michel-Édouard Leclerc au sujet des chiffres de l'inflation, dis donc.
Ce n'est pas tendu, je peux juste pas l'encadrer, c'est tout. Écoutez, chacun son travail. Est-ce que moi je viens à la radio dire que pour un pack de 16 yaourts paniers de Yoplait achetés, le deuxième est à moitié prix jusqu'à samedi dans tous les magasins? Donc il reste à sa place, voilà. Lui met les prix qu'il veut sur ses étiquettes et moi je trafique et j'affiche les prix, les chiffres de l'inflation que je veux. Voilà. Chacun son territoire, chacun son kikar.
Merci Roland. Leclerc, tiens, vous maintenez vos déclarations là sur l'inflation?
Bonjour à Pauline. Oui, ça va. Écoutez, je en tant que Michel-Édouard Leclerc que je suis, fils de mon papa, écoutez, je maintiens la courbe de l'inflation. Vous l'avez vu, augmente. Les charges augmentent. La température augmente, sauf dans les havres, les magasins Leclerc qui sont des havres de fraîcheur avec nos climatisations. Bref, tout augmente. Même ma cote de popularité augmente. Vous l'avez noté. Vous êtes une journaliste avertie, Apolline. Et d'ailleurs, je suis prêt pour cette élection. Souvenez-vous, au début de la guerre en Iran, j'avais promis une baisse des prix sur l'essence.
Ouais,
et finalement, non, c'était pas vrai. Bon, mais moi je le dis, voilà, j'ai pas tenu promesse. Voilà. Mais voyez, je me suis déjà mis dans la peau d'un vrai politique.
Vous avez vu un programme, Michel-Édouard Leclerc?
Oui, alors tout à fait. Alors mon programme c'est sourire. Voilà, je souris tout le temps sur tous les sujets, toutes les problématiques, la guerre, la canicule, tout. Du coup, ça passe beaucoup mieux. Je peux même vous dire que Roland Lescure à Bercy est un gros naze.
Ah oui.
Voilà. Et c'est voilà, pour moi c'est le Bruno le maire Marc Repère. Vous voyez, voyez, je le dis avec aucune agressivité, en souriant, et ça passe tout seul.
Merci beaucoup.
Vous voulez que je parle de vous aussi?
Non, je préfère pas du coup. Tu t'en retrouves, Stéphane Bern, pour les titres de l'actualité.
Oh oui, Apolline, tout le monde est là. Je suis ravi de vous retrouver, ravi de cette canicule. Enfin, mais oui, la canicule, j'adore, parce qu'enfin, Cyril Ferraud, mon grand concurrent, mon espèce de carrefour à moi, eh bien, mon concurrent va perdre des téléspectateurs. Et oui, allez, on leur souhaite un bon dernier voyage aux téléspectateurs de Cyril Ferraud. Avec cette arrivée d'air chaud, on leur dit arrivée d'air chi.
Non.
Je suis taquin. Allez, canicule toujours. On vous répète toujours les mêmes choses. Hydratez-vous, mettez un chapeau, fermez les volets. Mais le vrai conseil, c'est quoi? Mais c'est d'être riche, hein? Parce que vous verrez, avec un beau jardin arboré, une belle villa climatisée et une piscine, vous verrez, vous aurez tout de suite moins chaud.
Oui, c'est sûr.
Moi, c'est malin. Canicule toujours. Depuis le début de la semaine, plusieurs visiteurs du château de Versailles ont été pris de malaise. Mais c'est pas étonnant, faut être complètement con, en pleine canicule, d'aller visiter la demeure du roi Soleil.
Allez, merci beaucoup Stéphane Bern. De nouvelles plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel et on retrouve tout de suite Gérard Rolls pour faire un point sur l'affaire.
Et oui, bonjour Apolline. Et oui, Apolline, on va parler de ce compteur qui a bougé. Le compteur a bougé, il a bougé le compteur. Nous sommes désormais à 12 plaintes. Je rappelle les chiffres, 12 plaintes, 30 témoignages, 250 articles de presse. C'est vrai que les chiffres sont... Ah, vous venez de l'entendre, ça bouge sur le terrain. On part tout de suite retrouver Nelson Montfort. Nelson, vous entendez Nelson?
Ouais, mon cher Gérard, ici. Mon cher Gérard, je suis très heureux de vous entendre. Écoutez, je suis en Suisse, c'est confirmé. Une masseuse vient à nouveau de déposer plainte contre le talentueux Patrick Bruel.
Bien. Eh bien, écoutez, cette affaire, vous l'aurez compris, va de rebondissement. Cela fait donc, je revois les chiffres, 14 plaintes. Et d'ailleurs, l'avocat du chanteur, on l'a dit.
Oui, pardon de vous interrompre, mon cher Gérard, mais le parquet de Nanterre annonce à l'instant qu'il réouvre une enquête qui a été classée sans suite. Il s'agit donc cette fois d'un mannequin dans la vitrine d'une boutique de lingerie. Patrick Bruel se serait frotté à la jambe de ce mannequin. Je presque un mannequin en plastique dans la vitrine du BHV.
Mais non.
Et
merci Nelson d'être précis. Ah donc oui, n'oubliez pas, 22h40, ce numéro spécial de Faites Entrer l'Accusé, rebaptisé pour l'occasion Ne Faites Pas Entrer Patrick Bruel. Alors, bien sûr. Excusez-moi, mon cher Gérard, mais je reprends l'antenne puisque Mediapart, à l'instant, vient de publier le témoignage d'une femme. Écoutez, ce témoignage est véritablement invraisemblable et elle n'aurait pas été touchée par Patrick Bruel. J'espère que nous aurons une interview de cette jeune femme qui nous dit... Attendez, pardon, on m'a dit dans l'oreillette que ça y est, elle aurait croisé le chanteur, une plainte serait déposée dès demain. Et écoutez, le score s'alourdit, ça devient très, très, très lourd. Et le compteur n'arrive plus à suivre ce que je propose à la régie. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible pour nos téléspectateurs. On va afficher le nombre de femmes en France qui n'ont pas encore déposé plainte contre Patrick Bruel. Voilà, ça s'affiche. Il en reste encore 177 en France qui n'ont pas été... Attendez, ça bouge 176, 175, 164. Ça a l'air de se stabiliser. Oula, non, 19, 8, 7, 6, 5, 4. Voilà, vu comme c'est parti, pour connaître les chiffres définitif, on se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, mais pas le même score.
Merci Nicolas, passe la fin tout. Et merci à Thierry Leclerc d'être resté avec nous ce matin. Alain, Marshall, la suite, c'est les GG. Quel est le programme, Alain ?
On reviendra sur les perturbations, justement la perturbation de la pièce de théâtre de Patrick Bruel hier. Est-ce que les féministes ont eu raison ? La réunion autour de la canicule, autour du Premier ministre Sébastien Lecornu, est-ce qu'on a besoin du gouvernement pour savoir ce qu'il y a à faire ? Voilà, entre autres sujets. Puis nous serons avec Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, justement, avec nous, avec les GG, avec les grandes gueules. À tout de suite.